Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ? Salut Mathieu, salut Judith, est-ce que vous allez bien ?
Ça va.
Oui, et toi Geoffrey ?
Oui, ça va, ça va. Comme d'habitude, on n'est que trois pour cette réunion, donc tant pis pour les autres, on va commencer sans eux, de toute façon on les aime pas. Je regardais le planning et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au cinéma en avril, il y a bon, Godzilla et Kong.
Oui.
Mais il n'y a que toi que ça intéresse Mathieu, hein, a priori. Il y a le nouveau SOS Fantôme, la menace de glace.
Que personne est intéressé. Donc.
Ouais, il y a la malédiction, l'origine, ça c'est pour vous deux aussi.
Ouais, ça me tente un petit peu plus.
Ouais, bah, le rendez-vous est pris.
Le préquel du film culte, La Malédiction, très bien. Sinon, bon, il y a Civil War qui arrive à la fin du mois, mais en gros, je regardais au niveau des franchises, ça tourne tellement en rond que je me dis que régulièrement en réunion, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme dossier sur cette saga ? Et en fait, on a déjà fait plein de dossiers, donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut mettre à jour ? Quel classement peut-on mettre à jour tellement on a déjà épuisé tous les sujets ? Ce qui illustre bien, au fond, la situation. Le côté recyclage, nostalgie, le fait qu'en fait, ça tourne en rond, les suites, les préquels, les reboots. Alors, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu accéléré depuis une dizaine d'années. Je sais pas si vous avez le même sentiment.
Ouais, si, bah alors on vieillit aussi, mais je pense que ça fait un peu la même chose.
Oui, c'est un constat partagé par tout le monde. Dans l'industrie hollywoodienne en ce moment, c'est il y a vraiment une accélération incroyable au point, je trouve, qu'ils récupèrent des franchises qui n'en ont pas besoin et des fois ça se plante et on se dit bah oui, mais pourquoi ? Mais eux-mêmes, on a l'impression qu'ils le font presque par automatisme des fois, quoi.
Et d'ailleurs, quand je regarde en fait 2024, je me dis que j'exagère pas puisque j'avais oublié qu'on va avoir Gladiator 2. On a Beetlejuice 2 qui arrive bientôt. Même Judith, qui aime bien Tim Burton, est soumise.
Ah, je vais y aller pour Winona, mais faut-il que je l'aime, hein.
Il y a Twisters, la suite de Twister, qui est plus ou moins en train de faire un truc avec l'héritage, même si c'est pas officiel, mais bon, je serais pas étonné que quelqu'un soit le petit-fils ou le neveu de Helen Hunt.
Oh, c'est sûr.
Il y a le retour de la planète des singes, il y a le retour de Mad Max, donc bon, peut-être que Beetlejuice, c'est quand même le meilleur symptôme de ce truc-là, parce que tu ramènes l'ancienne équipe, t'as Jenna Ortega qui joue la mini Winona Ryder.
Ouais. Oui, mais le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça fait partie du Tim Burton de maintenant, qui essaye de retrouver le Tim Burton à l'ancienne, parce qu'il voit bien que le Tim Burton des années 2000-2010 est tombé en disgrâce. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un truc auquel il aurait jamais dit oui il y a un certain temps, et que là, c'est vraiment la dernière chance pour essayer de se ramener la satisfaction de ses anciens fans, quoi. Je trouve que ça fait un peu move désespéré, j'en sais rien, ça se trouve, ce sera bien, hein, je le souhaite, mais...
Peut-être.
Je te fais pas d'illusions, quoi.
Bah, pas trop, non, enfin, j'évite.
Et en fait, ce truc-là, ça porte un nom, hein, parce que depuis un moment, on dit Legacy Quell. Alors, je sais pas si vous souvenez depuis combien de temps vous connaissez ce mot-là. Vous souvenez de la première fois que vous avez entendu Legacy Quell pour parler de ce truc-là ?
Bah, dans Scream 5.
Oui, c'est vrai, parce qu'ils en parlent littéralement en disant « Eh, on est malin, on est Legacy Quell, tu sais ce que c'est ?» Et ils expliquent.
Alors, à cela dit, je suis en train de me demander, est-ce que c'est Scream... C'est peut-être Scream 6, parce que dans Scream 5, ils parlent de Requel. Et ensuite,
alors,
dans le 6, on passe au
Legacy.
Ah oui, d'accord.
Parce que je me suis demandé ce qu'ils expliquaient dans le 5 et dans le 6. En fait, dans le 5, ils disent Requel ou Legacy Quell.
Ah, d'accord.
Ils expliquent les deux. Voilà. Et toi, Mathieu, tu te souviens ? Quand est-ce que tu l'as entendu la première fois ce mot ?
Je crois que l'avoir déjà lu quelque part, parce que ça vient d'avant. Ils ont fait que reprendre le terme. Mais oui, le moment où nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on a commencé à l'utiliser dans des articles. parce que ça devenait flagrant, c'est après Scream où ils ont eu le mérite de le mettre en avant, quoi. Ouais. Voilà. De le placarder sur les murs en disant « Regardez, en fait, tout le monde fait ça, donc on va le faire aussi. »
Et du coup, ce Scream-là, attends, il est sorti en quelle année déjà? C'était quoi, 2017, 2018? J'essaie de me souvenir.
Oh bah, plus récemment, non?
2020, ah oui, d'accord, 2022.
Ouais. Parce qu'ils sortent tous les 8 mois, là, donc...
Non, parce que quand j'ai regardé d'où ça sortait réellement, ça date de fin 2015, ça viendrait d'un article aux États-Unis sur le site Screen Rush, écrit par Matt Singer, qui a dit ce mot-là pour la première fois. Ça veut dire qu'en quelques années, 7 ans après, Scream 5, qui s'appelle juste Scream, l'a mis dans son histoire, et c'était déjà le côté on remâche le truc, on en fait déjà un sujet méta, alors que bah, ça venait d'exister, ça faisait 6 ans que le truc existait. Écrit par un critique, donc c'est quand même la vitesse de propagation.
C'est
du
un
truc,
commentaire presque immédiat de l'industrie au moment où ça se passe. Ouais. Quoi.
D'ailleurs, le même auteur, toujours sur Screen Crush, avait fait un article quelques années plus tard où il fait son top des meilleurs Legacy Call et toute l'introduction, c'est j'ai formulé ce terme-là il y a quelques années et depuis tous les blockbusters s'en sont emparés. Et le mec est presque étonné lui-même d'avoir lancé. D'avoir mille démos sur la chose, quoi.
Je veux pas devancer ce qu'on va dire sur Terminator, mais il faudrait revenir en arrière et l'empêcher d'écrire cet article, du coup.
Parce que dans l'article qu'il a fait à l'époque, c'était donc fin 2015 pour Star Wars 7, mais il mentionnait aussi Indiana Jones 4 et plein d'autres films. Et la phrase est en gros, ces films sont là pour revitaliser de vieilles franchises à travers la notion d'héritage, donc legacy en anglais, ce qui a créé cette vague de films qu'on pourrait appeler legacy quel, donc legacy héritage et sequel suite, ce qui est plutôt malin, c'est moins moche que requel qui était remake sequel.
Ça reste un mot valise pas très esthétique, quoi, mais bon.
Oui, bon, écoute. Et mais du coup, c'est quoi la différence entre legacy quel si tu dois expliquer ça à quelqu'un, parce que globalement les gens s'en foutent quand ils vont voir une suite, ils se disent pas est-ce que c'est legacy quel et requel ou je ne sais pas quoi ou reboot remake, ils doivent se dire OK, c'est une suite. Du coup, qu'est-ce qui fait la particularité, pourquoi ça semble si spécial d'un coup?
Alors, dans l'article, il débute en partant de la bande-annonce de Star Wars 7, je crois. Ouais. Et il y a cette phrase de Han Solo dans la bande-annonce qui est ultra mise en avant, qui est quasiment la grande phrase de la bande-annonce, où il dit « It's true, all of it », tout était vrai. Et vraiment, l'argument marketing, c'est tout ce que tu as vu dans les précédents Star Wars, et ben, ça existait vraiment. Et il met en avant qu'effectivement, il y a ce lien de « tu prends quelqu'un qui symbolise la nouvelle génération, on va dire, entre guillemets », donc on serait plutôt sur une sorte de reboot. Mais d'un autre côté, tu insères des personnages d'une ancienne franchise qui n'existe plus en général depuis des années, voire des dizaines d'années, et tu les fais se mélanger de manière à avoir le meilleur des deux mondes. D'un côté, tu dragues la nouvelle génération qui veut voir cette franchise être renouvelée, et d'un autre côté, bah, tous les vieux de la vieille de 40 ans qui squattent nos publications Facebook, qui peuvent faire « Ah bah c'est quand même vachement bien parce qu'on revoit tel acteur des années 80, c'est cool et tout ». Et alors moi je trouve que c'est un truc qui est venu un peu se greffer par-dessus aussi. Dans certains cas, il y a aussi une volonté de s'affranchir des franchises qui ont été développées précédemment, notamment en disant, c'est le cas notamment sur Halloween par exemple, mais c'est pas les seuls à l'avoir fait, on est la suite du premier volet, on est la vraie suite. Nous on n'est pas comme ces charlatans qui ont essayé de vous la mettre à l'envers. On vous la met à l'envers, ironique, mais on ramène Jamie Lee Curtis.
Ouais. Voilà. Oui, il y a un côté un peu de nettoyage et reprise en main d'une marque. Quand tu vois que c'est le truc a été lessivé par les DTV, par Miramax et tout ça pendant des années, tu te dis nous on fait un truc un peu plus propre et tu zappes. Mais du coup c'est paradoxalement on essaie de reprendre en main et de donc respecter un peu la marque. Et en même temps tu te dis bah tu craches un peu la gueule des gens qui ont peut-être aimé certaines suites. Ce qui est un peu même craché dans la soupe, puisque c'est grâce à ces suites-là que la marque peut encore exister parfois 30 ans après.
Oui.
Donc
Mais je sais pas si on fait une différence entre justement les legacy quels de comment dire de franchises qui étaient déjà des sagas, ou tu vois par exemple Beetlejuice 2 ou Twisters. Mmh. Comme c'était pas des sagas au départ, en même temps, bien sûr qu'il s'agit de reprendre un héritage. Enfin, Beetlejuice, c'est une telle référence dans la pop culture que oui, il y a vraiment le côté, effectivement, faire revivre un héritage. Et en même temps, c'était pas une saga. Donc, c'est pas non plus la même empreinte, la même, comment dire, le même bagage, on va dire, que Scream ou Terminator ou quoi. Je sais pas si on peut faire une différence à ce niveau-là. Bah,
j'ai envie de te dire qu'aux yeux des studios hollywoodiens, désormais, ce qui compte, c'est plus tant les sagas, que ce qu'ils appellent les IP, quoi. Mmh. Et finalement, Beetlejuice, c'est une IP aussi puissante que n'importe quelle grosse franchise.
Ouais. Les propriétés intellectuelles.
Oui, voilà. Ouais. Des marques, en fait.
Oui, des licences. Et bah, si tu reviens à la définition qu'il y a dans Scream, donc le moment où le personnage explique les règles du jeu, elle dit en gros, c'est quand même tellement ironique, elle dit on peut plus rebooter une saga, les fans ne supportent plus ça, mais on peut plus faire une suite classique non plus. Faut construire quelque chose de neuf, mais pas trop neuf, sinon les gens pètent un cap sur Internet. Il faut que ce soit la continuation d'une histoire, même si l'histoire n'aurait pas dû continuer dans un en premier temps, quoi. C'est qu'en fait, tu continues un truc qui n'a pas lieu de continuer.
C'est vraiment très, très ironique.
Et donc, elle dit des nouveaux personnages, oui, mais accompagnés par d'anciens personnages. Pas vraiment un reboot, mais pas vraiment une suite. Voilà. Donc,
alors, pour le coup, Terminator a tenté toutes ces cartes-là et on n'a réussi aucune.
C'est marrant parce qu'elle dit, c'est pas vraiment un reboot, pas vraiment une suite, mais en fait, c'est surtout que c'est les deux à la fois. C'est un reboot et une suite.
Dans l'idée de reboot, je pense que normalement tu dois faire table rase du passé. Alors que là, justement, tu assumes que les vieux meubles sont encore.
Pour moi, dans l'idée de reboot, t'as la traduction relancée. Et finalement, Scream, c'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils relancent la franchise en recréant une trilogie à partir du Legacy Call. Alors là, ça devient. Mais bon, c'est ce qui est en train de se faire sur plusieurs licences. Hein, donc.
Oui, mais je pense que quand. Pour moi, quand on dit qu'on fait un reboot d'un truc, c'est que vraiment tu redémarres du début. Donc en fait, tu reprends l'idée global, mais tu prends plus du tout les personnages, tu peux réécrire, tu fais potentiellement un remake du premier film, quoi.
Oui, ouais.
Donc là, ils font un mix de tout ça. En fait, c'est un peu le stade hybride de mutation de tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bah, on fait ça. Avec un nouveau mot qui maintenant est peut-être officiellement dit, d'ailleurs, dans la réunion des exécutifs.
Probablement.
C'est marrant.
Après, est-ce que vous demandez tous ces termes? Enfin, au début, je pense qu'au début d'une franchise, ils ont quand même une certaine valeur, on va dire. Mais là, quand on voit sur Scream ou d'autres, à quel point ça se perd et ça se mélange et c'est plus clair. Enfin, pareil pour les Vendredi 13 ou quoi. Ou non, t'as l'impression que c'est vraiment juste de purs arguments marketing pour juste faire une énième itération, justement, à partir d'une marque, sans qu'en fait, ça n'ait plus aucune rigueur, justement, sur ce genre de détermination et que, ouais, ça sert juste à donner une légitimité, on va dire, au sein de la saga, auprès des fans, d'appeler ça Legacy Quell, Requel, Reboot, tout ce qu'on veut, mais qu'en fait, ça n'a aucune valeur, quoi.
Oui, absolument. En fait, je pense qu'il y a un peu deux types de Legacy Quell, alors on va peut-être développer autour de ça. Il y a ceux qui sont presque accidentels, c'est-à-dire que bon, c'est l'exploitation de franchise qui, par tel ou tel, je sais pas, moyen de production ou idée de producteur, en vient à recycler certaines choses d'une certaine manière. Il y a vraiment les films, tu les regardes et tu te dis, il y a des mecs qui sont mis autour d'une table et ils se sont dit, on va faire un Legacy Call. Pour préparer cette réu, j'ai vu le Ghostbusters, le reboot, ouais. Là, justement, celui Afterlife,
okay. Donc, SOS Phantom,
littéralement l'héritage en français, en ouais. Plus explicite. Et là, excuse-moi, mais la formule, le carcan, il est respecté à la lettre. Hein. Il y a des jeunes, et puis c'est le petit-fils, et puis il retrouve, et à la fin, spoiler alert, il y a l'équipe originale qui revient et qui fait des sourires à la caméra en disant « c'était bien quand même avant ». Et Sacrilège Ultime, il restaure numériquement Harold Ramis. Enfin, vraiment, là, on est dans la formule pure, et franchement, j'ai du mal à pas croire que, surtout après l'échec commercial de celui de 2016, ils se sont vraiment pas dit on va faire un Legacy Call.
Mais c'est marrant, justement tu parles de SOS Phantom, parce que celui de 2016 qui a été détesté, donc celui réalisé et écrit par Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kate McKinnon et tout ça, là, le SOS féminin des femmes qui a été détesté, c'était justement un truc qui essayait de rebooter, parce que les personnages, les acteurs, les interprètes des originaux revenaient, réapparaissaient, genre Sigourney Weaver et les autres, mais dans d'autres rôles. Donc c'était vraiment, tu fais table rase du passé, les gens reviennent, mais c'est juste un clin d'œil. Et dans celui-là, ils reviennent, mais dans exactement les mêmes rôles. Et pour le coup, il a marché, à tel point qu'il y a une suite.
Ouais, mais c'est assez symptomatique, finalement.
Bah ouais, donc en fait, le public veut peut-être ce truc d'attachement nostalgique, et il veut pas forcément qu'on touche au
jouet.
S'ils
le font, c'est que ça fonctionne.
Si tu rouvres le coffre au jouet, c'est pour refaire les mêmes choses. Si tu commences à bouger et tout, bon après, on pourrait te rétorquer, ils ont qu'à pas rouvrir ces trucs-là et juste faire des choses neuves. Mais
allez,
bon,
c'est
ça, c'est un autre problème aussi.
Après, si tu t'attaques à la qualité des films, on en discutait avant la rue, c'est-à-dire que SOS Phantom, je trouve qu'il est aussi symptomatique en ça que le film est techniquement bien foutu, les effets spéciaux sont pas mal, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reprendre un peu la texture des originaux, etc. C'est pas trop mal joué, c'est pas trop mal écrit, mais à quoi ça sert? À rien. Moi, j'aime vraiment pas le film de 2016, mais au moins, il essayait de faire quelque chose de nouveau. Là, tu sors du film, tu fais « Ouais, ok, moi aussi, j'aimais bien Ghostbusters, c'était cool quand j'étais enfant. » Mais c'est tout, quoi.
Moi, je trouve le pire dans ce film-là, c'est que le truc intéressant de ce film-là, au début, en tout cas, la première partie que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est que tu changes de décor. Tu vois des champs de blé, des horizons dégagés, tu vois la nature. Tu n'es plus à New York, alors que c'était le décor principal de tous Ghostbusters jusque-là, même de celui de 2016, qui était dans les mêmes rues et dans les mêmes décors. Et à la fin du film, ils reviennent à New York. Et je me suis dit, tu entends la sirène, tu les vois arriver sur le pont, je ne sais pas quoi, à New York. Et je me suis dit, non, mais si vous foutez de ma gueule. Tout ça pour faire un préambule, pour revenir à l'étape initiale. Donc, c'est même pas une sorte de renaissance en termes de décor.
Le suivant revient en environnement urbain, en plus.
Bah ouais. Donc, c'est là où je me dis, vraiment, c'est reculer pour mieux sauter et revenir au même point de départ, quoi. Ça,
mais il a ce truc qu'ont beaucoup de Legacy Call, dans le sens où, des fois, c'est plutôt pas mal dans une première partie, et au moment où les vieux reviennent, ça devient chiant.
Ah bah là, la SOS Fantôme, c'est...
Ouais. Ah bah ce cas-là, il est incroyable.
D'ailleurs, on pourrait couper ça, il pourrait juste avoir une histoire où la gamine et les gamins à la Stranger Things...
Ou alors, Bill Murray, il a pas l'air d'être très enthousiaste à l'idée de là, quoi. Il est là, dans le fond du plan, il fait « oui, bon... »
Ça donne un peu envie de citer directement Jurassic World, parce que c'est pareil dans le genre, là regardez, on vous montre comme on va un petit peu changer d'arène et changer de concept et changer de voilà, pour au final toujours finir par recréer exactement la même bulle, la même
on te dit qu'on n'est pas sur une île et en fait ils sont dans une vallée qui ressemble littéralement à une putain de nouvelle île, quoi. Voilà.
C'est, bah, à l'échelle de la trilogie, c'est encore pire, parce qu'au début c'est pour le coup un vrai parc. Bon, je sais que je suis le seul à peu près défendre le premier, mais au plus t'avances dans la saga et le dernier, ils te disent les dinosaures sont en liberté. Ouais,
tu c'est pas
vas
grave.
Voir le film au bout de 10 minutes. Alors les amis, dans une réserve naturelle.
Ah, tiens. Ouais.
Non, mais surtout on te dit dans le film, en fait, il y en a partout à travers le monde, mais c'est pas très grave. Le vrai problème c'est les sauterelles historiques et retournant dans ce centre-là.
Oh,
non mais
putain.
Sérieusement, genre il y a pas des T-Rex qui sont en liberté à Los Angeles, je comprends pas.
Mais pareil Scream hein, qui nous a fait croire qu'ils allaient utiliser le décor de la grande ville puis au final qui sert vraiment tout juste de toile de fond, enfin.
Oui, tu sens que c'est un peu un écran de fumée pour donner l'impression que ça renouvelle, mais bah en même temps dans le 5, moi je trouve ce que une des choses qui m'a le plus fait halluciner et détester ce film, c'est le moment où tu te rends compte qu'ils sont dans la maison du premier film.
Ouais.
Et qu'il y a ce plan débulé de merde, genre, oh, mais vous vous rendez compte? Et ça recule, travelling arrière, tu te dis, mais on dirait pas du tout le même endroit. Pour moi, c'était au sommet d'une colline, pourquoi c'est un arrondissement? Maintenant, je comprends rien. Et me dire, ça revient là, et c'est ça vraiment la carotte, c'est le même décor.
Ouais.
Mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est nul, quoi!
C'est vrai qu'on en vient à un point où certains, la plupart même, revendique le fait de récupérer les acteurs originaux, les décors originaux, etc., de revenir à ce qui était l'essence, mais physiquement, en fait, des premiers films. Et certains essayent de le faire, mais ils n'en sont pas capables, par manque peut-être de budget dans le cas de Scream 6, parce que, bon, ou par manque de possibilités, l'acteur est décédé, etc. Mm. Et du coup, ils essayent de faire croire qu'il y a une forme d'authenticité dans quelque chose qu'ils ont monté de toutes pièces. Moi, je pense au Massacre à la tronçonneuse, le dernier, là, sur Netflix, où le personnage de Sally du premier revient, et c'est pas Marion Birds, parce qu'elle est décédée, mais ils cachent pas trop le fait que c'est une nouvelle actrice. Enfin, c'est-à-dire qu'ils font comme si c'était Marion Birds qui revenait, mais pas du tout. Et, enfin, en fait, le concept même derrière, enfin, c'est comme si tu faisais Halloween de 2018, mais au lieu de prendre Jamie Lee Curtis, tu reprenais une autre actrice. Ça n'aurait aucun sens, tu vois.
J'imagine le sketch, quoi. En plus, dans Massacre à la tronçonneuse, ce qui est ridicule, c'est que je suis pas un grand fan des Halloween de David Gordon Green, mais au moins, tu ramènes un personnage, et je trouve que d'un point de vue émotionnel, c'est intéressant. Tu continues son parcours,
oui, puis
et tu transgresses
un
choses,
peu son
quoi.
Personnage, c'est pas mal quand même.
Ils le font grandir.
Oui, voilà.
Il arrive des nouveaux trucs. Elle a une fille, elle a une petite fille et tout ça. Dans Massacre à tronçonneuse, dans mon souvenir, elle revient
elle
en mode badass.
Direct.
Elle se fait éventrer dans la rue, dans les poubelles, et c'est fini. Et le film continue, quoi.
Après, à l'époque, j'avais trouvé ça un peu rigolo quand même qu'il fasse tout un pataquès autour de cette histoire, qu'elle revienne, elle se fait défoncer en 3 minutes. Pour moi, il y a presque une sorte de doigt d'honneur ironique là-dedans. Mais bon, vu le film en lui-même, au-delà
c'est
de
pas
ça,
le gros problème du
je
film,
pense pas que ce soit si volontaire que ça.
Ouais. Pensez pour le destin de Ellen Burstyn dans le dernier Exorciste.
Oh, yeah, ça aussi.
Ah, ça, oui. Faut y revenir parce que.
Mais en plus, heureusement, elle a été très honnête. Elle a dit en interview, moi, je suis revenu juste parce que ils m'ont pas juste offert un salaire, mais ils ont offert de financer un truc de formation pour les jeunes acteurs et actrices dans je ne sais pas quel endroit, et du coup, un truc qui lui tient à cœur. Et elle a accepté de faire le film juste pour ça. Et je dis, bah, heureusement que t'as dit ça pour que je garde un peu de respect pour toi parce que quel film de merde et quel rôle nul, quoi.
Et elle aussi, qui est expédié d'une manière assez hilarante quand la femme qui est censée connaître les tours de passe-passe de Pazuzu se fait doubler nucléer, limite elle met les mains dans le dos pour que la possédée le fasse.
Ouais, puis en plus ils vont vraiment monter la sauce parce que c'est genre qu'est-ce qu'on peut faire, il faut qu'on aille voir quelqu'un qui saurait résoudre tout ça, et du coup t'as vraiment les trucs habituels où t'as la voiture qui va loin dans une autre ville pour la retrouver dans sa maison isolée, ils ont réussi à retracer et tout, et en fait elle revient et finit rapidement à l'hôpital, et à la fin on a encore un truc de filiation puisque t'as Linda Blair qui revient et t'es censé te dire oh trop bien, bah non.
On s'en fout.
Ça donne l'impression du coup un petit peu que justement ces débuts de film où on a l'impression qu'ils vont réinventer quelque chose, changer un petit peu le concept, et que finalement ils finissent tout de suite par re-rentrer dans leur carcan habituel. Ça donne vraiment l'impression que au départ le réalisateur ou le scénariste ou je sais pas propose quelque chose et que les studios disent oui intéressant, c'est vrai que c'est logique qu'on prendrait cette route, mais finalement re-rentrons directement dans la formule dont on est sûr qu'elle nous assure un minimum de rentrée au box-office, on va dire. Et c'est pour dire, c'est histoire de dire oui, on y a pensé, mais on va pas le faire, quoi.
Bah tu vois, dans Dark Fate, c'est intéressant parce que James Cameron voulait que Linda Hamilton soit là, je crois, et le réalisateur, comment il s'appelle déjà le mec qui a fait ça, ce tâcheron là de Deadpool, Tim Miller.
Ah oui, c'est lui.
Il voulait que Schwarzenegger soit là. Et James Cameron, avec le recul, il dit en fait, aucun de nous n'a cédé. C'est pour ça que du coup, le film ressemble à vraiment la vieille génération contre les nouveaux Terminators. Et un, ça aurait peut-être été OK, mais là, t'en as deux au milieu. Donc le scénario essaie de te présenter deux nouveaux personnages qui sont complètement nouveaux, tout en traînant les vieilles casseroles qui arrivent à différents degrés du scénario. Et c'est marrant parce que au-delà de effectivement les scénaristes et les studios et tout ça, tu vois que là même les créatifs sont pas d'accord, ouais, et n'arrivent pas à se mettre d'accord et font un film qui en fait est une espèce de formule qui réunit tout ce qu'ils voulaient, qui ressemble à rien et que personne ne peut assumer au final.
Avec le Terminator saucisse barbecue.
Ah, ouais. Et ils changent les rideaux aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et ils changent les couches. Et si non, on a parlé de plein de films là, donc si on les legacy quels les plus emblématiques, les plus forts, on a cité donc les Star Wars, les Jurassic World, Terminator, Scream, l'Exorciste.
Halloween,
effectivement. Est-ce que Tron Legacy aussi, qui s'appelle vraiment littéralement Legacy, qui était un peu avant qu'il y ait le début de la...
Ça, tu vois, pour le coup, je le range plutôt dans le Legacy Call. Ils y réfléchissaient pas en tant que tel à l'époque. Ils avaient le doigt sur quelque chose, évidemment. Donc, c'en est techniquement un peu un, mais avant que ce soit une formule, quoi.
Oui, mais pourtant, c'est exactement la formule, puisque on essaie d'énumérer un peu quels sont les trucs, les tics de Legacy Call, et t'as toujours donc le vieux personnage avec un passage de relais, avec souvent un lien de filiation. Donc là, c'est le fiston. T'as très souvent des histoires de fils. Je pensais même à Bad Boys 3, où en fait, t'as pas vraiment un passage de relais, mais Will Smith, il a un fils caché. Et c'est le truc, le twist du scénario. Et t'as aussi le côté potentiellement mort des anciennes icônes et vraiment passage de relais parce qu'il n'y a plus le choix. Ça arrivait dans Tron, ça arrivait dans Star Wars.
Ils ont même anticipé la mode du rajeunissement numérique.
Oui, exactement. Ouais. Oui, ça a la magie de...
Il y a l'anomalie Top Gun, du coup, où là, il n'y a pas de filiation, parce que Tom Cruise ne peut pas admettre de vieillir. Et du coup, il faut que ce soit lui qui revienne.
Et surtout, il n'est pas capable de coucher avec une femme.
Ah oui, ben non, ben, c'est vrai. Aussi. Donc, pas de filiation. Mais c'est dit, si, filiation.
Bah ouais, parce qu'il a quand même quelqu'un, un jeune, qui est censé être un peu son miroir. Alors, du coup, la filiation peut prendre plein de
formes. Et puis, parce que c'est le fils de son rival, du coup.
Oui, c'est ça. Oui.
Et du coup, comme c'est dans pas... Creed, finalement.
Oui, ouais, c'est vrai.
Oui, Creed aussi. Mais en fait, t'as toujours un truc de passage de relais qui est souvent un lien d'amitié profond, de famille, ou voire le plus con de fils, quoi. Quand ils veulent pas se faire chier, c'est genre le fils ou le neveu, quoi.
Et alors, question, du coup, est-ce qu'un film comme The Flash est un legacy quel, dans le sens où, du coup, il fait revivre le Batman de Michael Keaton, il fait revenir, après...
C'est la même mécanique d'un pur point de vue de « on va te montrer ce que tu veux voir », mais je trouve que dans le développement narratif, ça prend pas exactement la même forme parce qu'on n'a pas ce côté on est des jeunes qui nous immergeons dans un univers que tu connais déjà.
En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent pas, effectivement, je suis d'accord avec toi Mathieu, il n'y a pas du tout la formule du Legacy Quel. Ils ont pris juste genre certains tics, mais sans du tout la construction dramatique autour. Donc en fait, il n'y a pas de passage de relais. Ils sont juste dit, en fait, les gens dans le Legacy Quel, ils veulent quoi? Ils veulent voir quelqu'un revenir. Du coup, bah vas-y, on fait revenir quelqu'un, Christopher Reeve. Pourquoi? On s'en fout, il revient. c'est genre l'affiche du Legacy Quel, mais qui apparaît, qui bouge dans le film.
Mais c'est ça, mais non, mais c'est fou parce que du coup, alors c'est vrai que ça allait aussi avec les problèmes d'Ezra Miller, bien sûr, enfin causé par Ezra Miller, mais du coup, la promo était énormément axée, au moins dans un premier temps, sur le retour de Michael Keaton.
Ah bah, entièrement.
Pourtant en accessoire, mais voilà, c'était la pub, elle était pour le coup 100% axée Legacy Quel.
Ouais. Bah ouais, est-ce que le multivers, au final, c'est un peu, tu fais le Legacy Quel, mais sans avoir besoin de justifier quoi. Tu ouvres une porte et en fait, la personne est là, t'as même pas besoin d'expliquer.
Legacy Quel, c'est l'excuse narrative.
Ouais, c'est ça, c'est genre le pire du pire, quoi. Jumanji aussi, je me suis dit qu'en fait, on avait l'impression que c'était une sorte de reboot, mais finalement, ils font référence à Alan Parrish chez la tante des gamins du premier. Réapparaît à la fin de Next Level. Donc en fait, c'est vraiment un Legacy Quel avec une nouvelle génération.
Tu vois, c'est vraiment juste au détour de une ou deux répliques, histoire de dire c'est le même univers.
Enfin... C'est ça. Mais peut-être que dans le prochain, il y aura Kirsten Dunst derrière une porte à un moment, hein, tu vois, dans
mais
le
après...
univers, ils diront « Oh, c'est Kirsten !»
Après, c'est pas qu'il échappe à cette définition, mais je trouve que c'est moins fort que dans des films qui, comme tu dis, axent toute leur promotion autour de ça. Et là, vraiment, c'est l'argument marketing numéro un, quoi.
Blade Runner 2049.
Ah oh bah oui,
ça pour le coup, en plus le film est quasiment scindé en deux avec une partie où il y a pas Harrison Ford et une partie où il revient et du coup il devient le collègue et alors c'est pas lui, enfin il y a pas un lien de filiation entre eux deux, mais il y a une histoire de filiation dans ce putain de film.
Oui.
C'est le twist et c'est vraiment
c'est le sujet du film.
C'est le sujet.
Mais lui il a le mérite d'être bien.
Oui. De le faire de façon maligne.
Oui, enfin, en tout cas il essaie de faire un film quoi. Dans les trucs bien pourris, je pense aussi à The Craft. À l'époque, j'avais écrit dessus parce que ça s'appelle littéralement Legacy. Et en fait, on dirait que c'est un remake, reboot, suite ou quoi que ce soit. Enfin, non, on dirait justement que c'est pas une suite. Mais à la fin, il me semble que tu te rends compte qu'une des héroïnes, c'est la fille de la folle du premier. Et c'est genre le twist à la fin dans l'espèce de scène post-générique de merde, tu vois. Et
c'est à l'époque du fandom, entre guillemets, cette illusion marketing qui voudrait que tous les gens soient inféodés à des genres de chapelles
oui.
de ouais. franchises qui les arrangent bien, évidemment, parce qu'ils ont construit toute l'industrie hollywoodienne contemporaine comme ça. T'as cette idée que il y a un fandom pour chaque franchise et que même The Craft, ce, oui. ce film des années 90 dont tout le monde se fout maintenant, enfin soyons clairs, même ça, il y aura des gens, enfin il y a même une population grande parce qu'il y a quand même, ils ont mis le budget quoi, qui ira voir ce film et fera putain incroyable.
Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait ils ont oublié visiblement que dans Legacy Quell il y a Legacy, il faut oui. qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait un culte, donc Blade ça. Runner ça marche, Star Wars ça marche, Terminator ça marche sur le papier, tout ça ça a du sens, même SOS Fantôme je trouve que ça a du sens sur le papier, mais c'est vrai que quand t'arrives à The Craft tu fais mais ouais. bordel, qui a voué un culte à ce film qui dans l'absolu je le déteste pas, mais c'est quand même effectivement un fond de tiroir, donc c'est là en fait quand tu commences à arriver au film tu dis mais il y a vraiment sérieusement qui est le public visé, parce que si ça se plante c'est une évidence quoi. Mais pour autant, ils essaient d'appliquer la formule un peu en se disant que c'est un argument en soi, quoi.
Ouais, mais c'est pas la première fois que les studios, ils surestiment complètement le pouvoir de leur franchise par rapport à ça. Je pense à Matrix qui s'est planté, Matrix 4.
Ouais, Matrix avait du... Je trouve que ça avait du sens sur le papier.
Oui, ah bien sûr.
C'est donc pour le coup...
Mais Blade Runner, c'est la même chose. Ouais, enfin, je veux dire, pour eux, ça leur a paru naturel que ouais. Blade Runner subisse ce traitement-là, étant donné que c'est une licence qui est très identifiée. Mais le fait est qu'à l'époque, ça s'était déjà pas très un peu planté, quoi.
Oui, puis ils ont essayé de faire une série, ils ont fait des jeux, il y a rien qui a été à la hauteur. Et 35 ans après, tu te dis, on fait une suite. Bah ouais, en fait, effectivement, ça s'est planté. Peut-être aussi parce qu'ils avaient mis beaucoup trop de thunes dedans, comme avec Matrix. Alors, Matrix, c'est un cas intéressant aussi, parce que tu te dis, bon, on est plusieurs dans la rédaction à trouver qu'il y a pas mal de trucs vachement intéressants dans le film, tout en voyant les énormes défauts, notamment dans les scènes d'action. Et pour autant, t'arrives un peu, c'est un peu comme Scream, pour moi, on arrive déjà au degré tellement méta, réflexion là-dessus, en si peu de temps, que tu dis, mais en fait, le truc est déjà moisi. S'il y a déjà des gens qui critiquent ça et s'en moquent ouvertement, et donc se moquent un peu de toi, d'eux-mêmes, et que t'es déjà dans ce degré de... T'es même plus dans l'émotion première, bah, dans une espèce de, d'objet théorique qui commente un truc qui vient d'arriver, que t'arrives encore à peine, pas encore à mettre le doigt dessus, tu vois à quel point, en fait, c'est un château de cartes qui s'écroule en direct, quoi, en l'espace de 5 ou 6 ans.
Mais de toute manière, moi, je trouve que le principe du Legacy Quell, avec justement ce retour constant de la filiation, moi, c'est un truc que je déteste par principe. Et je pense que ça a flingué justement l'essence de certaines sagas. Et alors je maîtrise pas énormément Star Wars, mais je crois que c'était notamment le cas de Star Wars, là où ça vient justement réinstaurer un principe de filiation, la fille de ceci, de machin, là où le principe était justement de dire que les Jedi peuvent s'incarner en n'importe qui. Je trouve que c'est très très américain, cette espèce justement de culte de la filiation, du rapport d'abord père-fils et ensuite voilà version étendue. Alors que justement, en fait, l'intérêt, c'est de se dire que le bien, le mal, les grands méchants et les héros peuvent vraiment être n'importe qui et que ça dépend pas, encore une fois, d'une sorte de descendance,
d'aristocratie de la franchise, tu veux dire.
Oui, non, je cherchais quel mot on emploie pour ça, les monarchies, hein, voilà. Mais
quel est le mot que tu cherches, c'est pas clair, là.
Oui, non, mais voilà, effectivement, de se dire que, voilà, ses qualités ou ses défauts, mais en tout cas, qui font qu'un personnage est spécial, se passe de père en fils ou de mère en fille. Je trouve que ça flingue tellement le propos de tellement de ces sagas, justement, et donc il me semble voilà, que c'était le cas pour Star Wars. Je trouve ça déprimant tout ça pour, en plus, toujours faire plus correspondre ces modèles de pop culture à l'idée qu'on se fait de la suprématie de la famille nucléaire aux États-Unis.
Je pense aussi à Independence Day 2, qui est un bon exemple de truc raté et nul, où, à l'origine, dans le premier, avoir Will Smith au casting, c'était vraiment une sorte de bataille parce que le studio voulait pas un acteur noir. Will Smith n'était pas encore assez célèbre, donc il s'est battu, Roland Emmerich à l'époque. Et dans la suite, Will Smith n'a pas voulu revenir. Du coup, il y a son fiston dedans. Et le film s'est planté parce que, en fait, pourquoi il faudrait que ce soit son fils? En fait, n'importe qui peut affronter s'il voulait faire revenir les aliens. C'est eux les stars, donc on s'en fout des personnages humains.
Ah, et puis n'importe qui peut être le fils de quelqu'un. Hein, c'est pas pour ça que c'est un bon acteur.
Mais je trouve le cast Star Wars est assez fascinant puisqu'en plus la trilogie le met plus ou moins en scène malgré elle. Dans le sens où l'épisode 8 te dit justement que le grand twist, c'est que Rey n'est descendante de personne et que donc, point de rupture dans la saga, on sort de ce dont tu parles, cette obligation de la filiation, etc. Pour revenir dans le 9, à ce bon vieux J.J. Abrams qui avait fait le plus gros Legacy Call de la saga, donc le 7, qui revient et qui te dit « Non, en fait, c'est faux, il faut absolument que ce soit la fille de quelqu'un et la dernière image du film ». C'est elle qui dit son nom de famille, quoi. C'est incroyable. Ouais.
Mais surtout que c'est hallucinant parce que là, c'est,
c'est
le grand
nul,
écart entre elle qui est la fille symbolique de Skywalker et qui en même temps est la petite fille de Palpatine. Tu dis, là, de quelles chaussettes ont-ils sorti cette idée de merde? Parce que vraiment, c'est pas juste, c'est la descendante des héros. Alors le twist, c'est la descendante du contraire du héros. En fait, alors que le 8, justement, bon, ça c'est tout le problème de cette trilogie Star Wars, c'est qu'ils ont justement essayé à un moment, Rian Johnson, de dire n'importe qui peut être Jedi, même le gamin qui fait le ménage avec son balai dans un hangar, et en fait le reste de la saga, de la trilogie, te dit que non. Donc eux-mêmes réécrivent le truc en direct.
Ce qui était aussi d'ailleurs, mine de rien, plus ou moins le discours de la prélogie. Bon, on aime ou on n'aime pas avec cette histoire de midi-chlorien, etc. Mais le fait est que, en faisant de l'élu, entre guillemets, un gamin plus ou moins réduit en, esclavage sur une planète paumée à l'autre bout de la galaxie, il y avait cette idée que, ouais, n'importe qui peut devenir le héros, quoi.
Ouais, mais ils vont droitiser là, le propos.
Dans les intéressants, il y a Candyman. Je sais qu'on le trouve pas mal, Candyman, qui est pour le coup un vrai Legacy Quoi, il me semble, non ?
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce
il y a Tony Todd qui revient à la fin.
Oui, c'est ça. Ouais. Je me rappelle plus, parce que je l'ai pas vu depuis sa sortie ciné. C'est une suite assumée, c'est pas un...
Bah, Mathieu, tu dis
oui, oui, oui. En fait, ils assument de faire de Candyman non plus un boogeyman précis, mais un phénomène autour. Et je trouve ça assez génial, en fait, la manière dont il détache la métaphore de la concrétisation qu'elle avait dans le premier film. Je trouve ça assez malin, d'un pur point de vue intellectuel, on va dire, et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, c'est-à-dire que c'est un film qui est assez, assez casse-tête, finalement, quoi. Tu réfléchis à, oui, alors en fait, il représente la gentrification plus que vraiment la mort en elle-même, là où, bon, beaucoup de gens voyaient Candyman comme un film d'horreur social assez classique.
Ouais.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et moi, je trouve ça relativement réussi, pas hyper subtil, mais il y a une vraie volonté d'en faire quelque chose d'intéressant d'un pur point de vue thématique, quoi.
Oui, puis là, de la part de Nia DaCosta, du coup, qui a réalisé le film, il y a de vraies propositions de mise en scène, des meurtres qui sont vraiment montrés de manière originale, enfin, qui proposent vraiment quelque chose, quoi. Beaucoup plus que dans l'escrime, du coup. Encore, moi, je leur trouve quelques qualités, mais.
C'est vrai que ça m'avait frappé dans Candyman de voir à quel point la mise en scène est soignée. Je me souviens de plein, même le timing, tu sais, il n'y avait pas le truc que je reproche dans les scrims, c'est l'efficacité tout le temps bulldozer. Et je me souviens dans Candyman des moments où juste le plan pouvait durer plusieurs secondes sans qu'il soit là pour te montrer, te faire un effet, te raconter un truc. Et en fait, il te plonge dans une ambiance que plein de films n'arrêtent pas à faire. Donc ça ressemble à un film, quoi.
Il y a le plan large très cool de la baie vitrée, là, avec la mort. Mais je trouve que le film le fait d'une manière encore plus maligne dans cette idée du temps qui passe et des décors, etc. C'est-à-dire que j'avais bossé dessus à l'époque où il était sorti. Le premier film a été tourné dans une cité qui s'appelait Carbide Green et qui avait à l'époque d'énormes problèmes d'insécurité, etc. Et entre le moment où le premier film est sorti et le Legacy Call est sorti, l'endroit s'est complètement gentrifié. Ils ont rebâti par-dessus, etc. Et le film s'empare complètement de ça. C'est-à-dire que les personnages sont des gens qui vivent dans des appartements un peu cossus, des artistes un peu bobos, construits sur les ruines de ces gens qui ont galéré à l'époque des années 90. Et donc, Candyman reste dans ces lieux, on va dire, entre guillemets, comme une sorte de rappel que la gentrification, c'est aussi finalement une forme d'oppression, quoi. Et je trouve que la manière dont il continue le discours social à travers la fiction et la réalité, donc, du vrai endroit où ça a été tourné, est assez malin.
Bah ouais, en fait, c'est un bon legacy quoi, dans le sens où l'héritage est un sujet part entière.
Oui.
Comme dans Matrix 4, où en fait, ils disent pas juste, oh bah, on fait un truc parce que c'est connu, on ramène tout le monde, mais qu'est-ce qu'on peut raconter de plus là-dessus? Bon, Matrix, ça va à l'extrême, puisque le film lui-même devient un sujet à l'intérieur du film et de l'entreprise de l'industrialisation de ce bordel. Mais Candyman en fait partie. Est-ce que Cobra Kai, c'est un bon exemple aussi? Moi, j'ai pas vu.
Absolument, oui. C'est même le stade terminal.
Ah ouais, dire. Ah, donc c'est négatif.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont méga fans. J'espère vraiment qu'on fera jamais de podcast sur le sujet, parce que si je m'exprime...
T'as peur qu'on t'insulte, c'est ça?
Voilà, je vais recevoir des lettres anonymes. Mais les gens sont fous. Hein. La raison pour laquelle les gens adorent la série, dans le sens où c'est... les deux personnages qui jouent les enfants dans Karate Kid, qui littéralement apprennent à une nouvelle génération avec des nouveaux codes, ils leur apprennent les valeurs que eux-mêmes ont dû apprendre. Voilà, c'est poussé au sommet du sommet, et la série va dans un jusqu'au boutisme par rapport à ça, parce qu'ils enchaînent les saisons, qui est, je dois l'avouer, assez marrant et assez divertissant, aussi n'importe quoi, hein. Et du coup, il y a des défauts qu'on pardonne, dans le sens où les acteurs originaux, par exemple, sont vraiment pas très bons, quoi. Ils ont pas une grande carrière par la suite. Et bon, bah, c'est pas très étonnant. Mais bon, il y a le côté un peu kitsch de l'époque qui fonctionne pas trop mal et tu leur pardonnes. Et il y a une popularité de cette série qui est incroyable. C'est une série qu'ils ont rachetée à YouTube Red à l'époque, quand même. Donc, qui était un truc un peu, ouais, un peu niche, tu vois. Et eux, ils ont carrément vu le filon, quoi. Ils l'ont exploité et ils ont très bien fait. Je pense qu'ils se sont fait des couilles en or sur ce truc. Qui n'a pas coûté très cher, d'ailleurs.
Tu parles de ce truc de, à l'intérieur de la fiction, t'as une génération qui passe le relais à notre génération. J'imagine que du côté marketing, ils doivent se dire, mais c'est ça notre public. En fait, les parents emmènent les petits-enfants, emmènent leurs petits-frères, emmènent vraiment les... Et en fait, ils veulent qu'en miroir, t'aies le parent ou la maman qui explique, oui, moi, tu sais, quand j'ai grandi, c'était comme ci et comme ça, à leur enfant, et à l'écran, il y a leurs alter ego, et ils doivent se dire, bah, c'est le succès de ce qu'ils en veulent. C'est vraiment le reflet le plus bête et primaire, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose de, effectivement, un peu touchant, j'imagine. Si Star Wars, par exemple, t'explique à tes gamins, tes petits-enfants, ou tes neveux-nièces, comment t'as découvert Star Wars, et que tu vas à l'écran, et que tu vois, Luke Skywalker expliquer à des gamins, tu dis, oui, bah, je comprends que c'est quelque chose d'un peu touchant, quoi. Est-ce que ça mérite qu'on en fasse un film? Je sais pas.
Bah, tu brasses un public très large, quoi. C'est l'avantage de ce truc-là. Mais ouais, mais donc Cobra Kai, ils vont tellement loin que quasiment à la fin de chaque saison, le cliffhanger, c'est l'arrivée de random figurants de second rôle. Et tout le monde fait, oh my god, c'est Jean-Jacques Rousseau. Je sais pas pourquoi j'ai dit Jean-Jacques Rousseau.
Ah bon, c'est un truc pas
je voulais dire. Je voulais dire un nom random.
Ouais, bah, c'est pas random, hein, c'est. Adolf Hitler, là.
Bref, c'est Jean-Jacques qui a 15 minutes d'apparition dans, je sais pas, en plus Karate Kid 3, tu vois, vraiment les suites de suites. Mais apparemment, ça fonctionne et il faut avouer qu'il y a un côté croquignolé derrière Cobra Kai.
Croquignolé.
Non, mais c'est le terme, c'est le terme. Comme le dirait Jean-Jacques Rousseau.
Finalement.
Mais si on essaie de mettre le doigt sur à quel moment ça a commencé, donc vers 2015, ça a commencé à exploser, mais en fait, moi, quand tu parlais d'Halloween, je pensais à Halloween 20 ans après, qui était en 97-98, et qui est déjà un legacy sequel avant que ce mot existe. Donc est-ce qu'en fait, c'est pas un truc qui est là depuis longtemps et que tout le monde en fait des caisses, alors qu'en fait, la conception du legacy sequel existe peut-être depuis 50 ans, donc un mec ait mis un mot là-dessus, quoi. Vous pensez à d'autres trucs à part Halloween 20 ans après?
Ouais, bah du coup, moi je pensais, il me semble que Psychose du coup a subi quelques suites aussi tardives, on va dire, dans lesquelles c'est un peu paumé Anthony Perkins qui malheureusement manquait d'offres à l'époque.
Ah, Psychose 2, c'est pas si mal.
Ah oui, non mais peut-être, j'avoue que celui-ci je ne l'ai pas vu.
Et puis
mais
c'est
du
genre
coup...
20 ans après le premier, donc c'est d'où le côté un peu genre tout le monde est vieillissant et on revient au motel, ça se passe toujours au Bates Motel et non, il sort de prison, un truc comme ça.
Je me rappelle plus, franchement je me rappelle plus.
Bon, faudra réviser si un jour on écrit un truc dessus. D'autres exemples, tu m'avais dit l'autre jour la suite de 2001-2010.
Ah oui, c'est vrai.
Je n'ai pas vu. L'année
qui
du premier contact.
Qui est aussi pas si mal, de Peter Iams.
Et donc c'est vraiment lié au premier, c'est la
absolument.
Continuation de l'histoire.
Absolument, en fait, ils vont. Enfin, ça commence avec Roy Schneider, si je ne dis pas de bêtises, qui est envoyé pour aller à l'endroit où s'est perdu le premier vaisseau de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il en fait un truc plutôt pas mal. Esthétiquement franchement très réussi, qui a le bon sens de ne pas partir dans un délire métaphysique trop prononcé pour ne pas trop aller braconner sur les terres de Kubrick. Après c'est adapté de la suite du livre, hein, donc
oui,
rien
simplement.
De voilà,
mais c'est arrivé genre 15-16 ans après le premier, d'où le côté legacy dont on parle. C'est qu'en fait quand un truc arrive vachement longtemps après le premier, c'est là que tu te dis en fait ça ne vise plus le même public, c'est les gens qui ont vieilli, les acteurs ont vieilli, tout a vieilli et du coup tu vas en parler dans l'histoire.
J'arrive pas à me rappeler s'il y a des acteurs du premier
Parce que le monolithe est de retour.
Oui, bien sûr. Bon. Mais j'arrive plus à me rappeler si il y a des acteurs du premier.
Un autre exemple aussi auquel je pensais, c'est le 7e Freddy, qui pour le coup, comme Matrix 4, fait vraiment de l'héritage le sujet principal et le moteur de la fiction, avec Wes Craven qui joue son propre rôle, l'actrice Heather
Langenkamp, je crois,
qui joue son propre rôle et il tourne un autre Freddy. Et en fait, tu sors de la fiction du premier, puisqu'on te dit le premier film, c'est un film qui a été tourné. Du coup, on te montre l'histoire des acteurs avec la malédiction qui a traversé l'écran. Donc, c'est un côté ultra méga méta avant Scream et qui est déjà préfiguré Scream quand même. Et qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle un Legacy Quell aujourd'hui. Si quelqu'un faisait ce Freddy là aujourd'hui, on dirait que c'est Legacy Quell. Et pourtant, à l'époque, le mot n'existait pas. Donc, je sais pas si tout ça, c'est des cas un peu isolés ou si on pourrait en trouver plein. Peut-être toi, grand maître de l'horreur, Mathieu, tu pourrais nous sortir dans tous les caveaux des grandes franchises d'horreur. Hellraiser, est-ce qu'il y a eu des trucs? Bah remarque, il y a eu le récent dans Hellraiser.
Ouais, après Hellraiser, ouais, c'est un cas assez particulier. Il y a cette idée de on reprend un peu les origines de la franchise,
ouais.
Mais c'est plus dans le sens production, étant donné qu'il y a vraiment l'idée de Oui, ils ont complètement envoyé chier l'univers de Clive Barker dans les trousaines de suite des Weinstein. Nous, on va revenir à un truc plus noble. Ensuite, par exemple, Doug Bradley ne revient pas en Pinhead. Oui.
Mais ils se sont posé la question, je crois.
Bon, il me semble, ouais. Hein. Bon, après, bon, voilà, les Riser ont tous des productions hyper oui. compliquées, donc c'est difficile. Mais ouais, il y a l'idée de revenir à une certaine noblesse de Hellraiser. D'autant que là, on a vraiment tous envie de voir certaines suites oblitérées dans le néant. Mm. Mais après, ouais, je dirais pas que c'est. Et c'est des jeunes aussi, d'ailleurs.
Oui.
Mais je dirais pas que c'est complètement un legacy call. Mm. Moi, je pense à Massacre à la tronçonneuse, au-delà du dernier. En fait, ils l'ont déjà fait le coup en 2013, hein, parce que Massacre Texas Chainsaw 3D, cet énorme nanar qui refait revenir Marine Burns dans un autre rôle, pour le coup. Mais elle a un genre de caméo, quoi. Et c'est vraiment pensé comme tel. Il y a cette idée de, oui, on fait une suite au premier Massacre à la tronçonneuse et on oublie toutes les suites. Ouais. Cette fois, c'est la vraie suite en 3D. C'est nul. Mais c'est un peu marrant.
Je trouve que Halloween 20 ans après, c'est vraiment exactement un modèle à la Halloween 2018 de David Gordon Green, parce que tu zappes plusieurs suites puisque elle est vivante. Non, elle avait pas été tuée avant. Attends, je ne me souviens plus. Laurie Strode dans la saga, si tu prends toutes les suites, dans le deuxième, elle est pas tuée. Juste, ils zappent tout un tas de trucs qu'après, puisque est-ce qu'ils zappent le fait que dans Halloween 20 ans après, c'est plus son frère? Si, c'est son frère. Putain, on s'en met les pinceaux.
Je crois que c'est toujours son frère dans Halloween 20 ans après. Par contre, dans le
2018,
il y a carrément une note dialogue à un moment où il y a un des personnages qui dit, enfin, personnage hyper secondaire, qui dit « moi, je pensais que vous étiez frère et sœur. »
Ah, oui.
Et elle répond « Non, mais ça, c'est les gens qui inventent. »
c'est un peu drôle. Oui, dans Halloween 20 ans après, donc ça se passe 20 ans après, et elle est adulte, elle est à la tête d'une sorte d'école privée, c'est ça, où il y a Josh Hartnett et Michelle Williams, et donc t'as la nouvelle génération, et elle a un enfant. Et c'est son fils et toute la bande d'ados qui sont visés par Michael Myers. Et t'as vraiment ce truc de il faut régler les comptes avec le passé. Et à la fin, elle le décapite. Et pourtant, il revient, puisque dans Renaissance, elle revient, il revient. Et là, il la tue. C'est ça, c'est Renaissance, hein, ce truc de merde qui se passe avec la réalité TV, là.
Ouais, ça, ouais. C'est Renaissance, ouais. Ah ouais, celui-là, il est atroce. C'est le pire, je pense.
Dans les vieilles, aussi les vieux legacy quels, on va dire, pour sortir un peu de l'horreur, parce que finalement ça se fait beaucoup dans l'horreur et dans ces trucs. Enfin, il y a les Shaft aussi, parce que du coup dans celui de 2000, il y a Richard Roundtree qui faisait Shaft dans les années 70, qui revient aussi pour un petit rôle, et là aussi il y a un peu l'idée de filiation, parce que c'est l'oncle de Samuel L. Jackson. Bon, ça fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, tout le monde s'en fout un peu de Shaft.
Oui.
Ouais. Bah, je crois que dans le monde entier, parce qu'en 2019, ils ont refait un Shaft où Samuel Jackson est revenu, donc ils ont essayé de le refaire encore une fois, et je crois que c'est planté parce que tout le monde s'en fout, en fait.
Ah ouais, là, je sais pas si ça aurait pris, s'ils avaient un peu fait une trilogie comme dans les années 70, mais dans les années 2000. Mais ouais, en 2019, après le désintérêt de celui de 2000, ouais, je.
Je pense que la raison pour laquelle il y a beaucoup de legacy sequels sur le cinéma d'horreur, c'est à cause de la façon dont le genre s'est développé des années 70 à aujourd'hui, où, pour caricaturer grosso modo, fin des années 70, début des années 80, on a toute la naissance de trucs hyper originaux, hyper frais, voilà, c'est le post-Carpenter, etc. Deuxième partie des années 80, voilà, l'ultralibéralisme, on fait des méga suites pourries de partout et le genre est en train de méga s'essouffler, surtout si on parle de slasher d'ailleurs. Et on arrive, voilà, dans les années 2010, et là, l'objectif, c'est vraiment de faire une croix sur toute cette partie-là de la des carrières des sagas, dont on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie d'en entendre parler, en fait.
Alors, je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a aussi peut-être le fait que dans l'horreur ou dans les films de super-héros, par exemple, tu vois, enfin que ce soit des boogeyman ou des super-héros, on a l'incarnation d'un personnage qui est presque une idée, tu vois, qui est une marque extrêmement identifiable, extrêmement incarnée, et qui, du coup, facilite, je pense, tous ces fantasmes de filiation et qui perdurent peut-être mieux à travers les âges que des personnages, justement, plus lambda de cinéma mainstream, quoi.
Mais tu parlais de John Carpenter, Los Angeles 2013, est-ce que ça compte là-dedans? Parce que ça arrivait une bonne dizaine d'années après New York 97.
Après, il n'y a pas trop l'idée de filiation dans le film, finalement. Ouais. C'est juste une suite très tardive et un poil opportuniste qui n'a pas marché, d'ailleurs.
Ouais. Donc, pourtant, il fait du surf.
Pourtant.
Et est-ce que les Bronzés 3, c'est Legacy Quest? Parce que, bon, il n'y a pas vraiment de nouvelle génération. Si, ils ont des enfants. Curieusement, je n'ai pas revu ce film depuis très longtemps. Donc je ne me souviens plus des détails du scénario.
Je n'ai jamais vu.
Ouais, curieusement, je ne l'ai pas vu du tout.
Parce qu'en tout cas, tu les revois très longtemps après. Et ils ont tous un peu changé. Et ils se retrouvent pour des vacances. Et tu as l'antagoniste du film dans le souvenir. C'est en fait, il y a quelque chose, quelqu'un qui attaque dans la nuit différentes personnes. Non, ce n'est pas un loup-garou, désolé Mathieu. C'est le personnage de, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était là dans les anciens et qui en fait veut se venger d'eux et veut les faire chier. Donc je crois qu'elle a...
Ah ouais.
Alors attends, peut-être que je réécris en direct. Pour moi, elle est tellement énervée contre eux qu'elle veut se venger et elle porte une sorte de griffe à la Freddy pour les attaquer dans la nuit.
Ah oui,
je
donc
ne sais
c'est
pas
une parodie,
si c'est la réalité
plus.
Ou si c'est moi qui l'ai formé. C'est ce dont je me souviens.
T'as dormi pendant le film.
Exactement.
Non, mais pour dire que, ouais, on a aussi nos Legacy Quail en France et on en est fiers.
Le terroir, le terroir. Bah, les visiteurs à la Révolution, hein. Est-ce que c'est pas un Legacy Quail?
Moi, j'ai pas vu. Donc, chacun sa culture. Ah merde. Judith, tu l'as vu?
Non.
Oh.
Bizarre.
Quel manque de culture chez l'écran large. Basic Instinct 2. Il y a quand même un côté héritage. Quand Michael Douglas n'est pas là, il n'y a pas de filiation. Mais c'est une sorte de remake qui fait... pour le coup, t'as vraiment la notion d'héritage parce qu'elle revient et il rejoue le fait qu'elle a peut-être tué quelqu'un et qu'en fait, elle rejoue des scènes en mode...
c'est déjà chiant dans le premier. Alors...
Ah, t'aimes pas le premier Basic Instinct? Basic Instinct?
C'est le pic gratuit.
Pardon, pic à glace gratuit.
Oh,
une blague de Mathieu, c'est pas un compliment. Alors ainsi un cas, attends, je commence par le cas qui est pas intéressant avant d'aller à celui d'intéressant, c'est Die Hard. Ils ont essayé. En fait, c'est ça le côté passage de relais qui a été foiré plein de fois. Ils ont essayé de le faire dans Jason Bourne, ils ont essayé de le faire dans Mission Impossible, donc Jeremy Renner porte la poisse, et ils ont essayé de le faire dans Indiana Jones aussi avec Shia LaBeouf.
Oui.
Et ils ont essayé de le faire dans Die Hard avec Justin Long et Jay Courtney deux fois avec le côté quelqu'un qui n'est pas son. Attends, c'est son fils Jay Courtney ou pas?
Il me semble.
Ou c'est son faux fils.
Oh, je me rappelle plus.
Bon, en tout cas, il y a un côté, c'est le nouveau John McClane.
J'ai oblitéré ce film de ma mémoire, il n'existe plus.
Bizarrement. Mais bon, voilà, ce côté passage de relais avec quelqu'un qui peut ne pas être ton fils, comme on l'a dit. Un cas intéressant, c'est Superman Returns. Parce que il a fait un moment où c'était pas encore la mode, puisque 2006, on parlait vraiment pas. C'était une dizaine d'années avant qu'on dise Legacy Quell. Et pourtant, il y a ce truc de, tu zappes des suites, t'essaies de te recoller au deuxième, il me semble. Il essaie de se recoller à ceux qui sont aimés. Et c'est arrivé genre 26 ans après le deuxième, et tu fais comme si c'était le passé. Donc ils ont fait revenir, enfin ils ont utilisé des scènes de Marlon Brando pour qu'il soit présent dans le film, comme s'il était là en tant que père Kal-El, c'est ça le père de Superman, et un nouveau Superman qui est joué par un mec qui n'est plus du tout Christopher Reeve, mais avec la filiation de la mèche et de vraiment du côté old school. Donc c'est vraiment le côté musée, on préserve le fétichisme de comment c'était avant, on essaye de ne pas le toucher.
Mais le nombre de Superman qu'il y a eu depuis 2006, du coup, c'est incroyable. Mais...
Oui.
Bref, pardon.
Ouais, je trouve que le cas de Superman Returns, c'est hyper symptomatique du tâtonnement qu'il y a eu chez les studios avant de trouver la formule Legacy Call. Là, on est sur, oui, il y a la nostalgie, mais il n'y a pas encore vraiment le côté filiation. En fait, on brosse dans le sens du poil le vieux public, mais pas encore le récent. Tu sais.
Elle est pas enceinte de lui, dedans?
Je sais pas. Tu me regardes comme si t'as une révélation.
Ah non, mais non, parce que y a, du coup, y a, peut-être qu'ils avaient prévu pour la suite une filiation avec bébé Superman.
Possible, ouais, c'est possible. Je vois. Non, mais,
Super Baby.
Je l'ai pas revu depuis très longtemps.
Il faut qu'on fasse une liste, il faut qu'on revoie les Bronzés 3, les Visiteurs à la Révolution, Superman Return.
Le dossier de l'enfer.
Et bon, attendez, j'essaye de retrouver un peu quand même un semblant de clarté sur les dates, parce que on s'est dit vers 2015 ça explose, mais avant il y a des trucs, il y a eu Basic Instinct 2, Les Bronzés 3, Superman Returns, Die Hard, Indiana Jones 4. Donc comme on l'a dit, ils ont sûrement dans une galaxie imaginé que Shia LaBeouf pouvait devenir Indiana Jones, même si à la fin il ne prend pas le chapeau et que Harrison Ford le récupère, donc il y avait déjà un petit peu un pied de nez par rapport à ça. Il y a John Rambo aussi. Bon bah Déborah elle est pas venue à la réunion, elle est piscine, mais elle aura pu nous en parler, j'imagine, parce que je ne les ai pas vus. Mais
et Rocky Balboa, il y a eu deux films.
Ouais, le Stalloneverse, quoi.
Ouais.
Y a Star Trek aussi, je pensais à Star Trek, les J.J. Abrams, parce que Spock, il revient. Leonard Nimoy revient et il joue le même rôle et il réapparaît. Et c'est un des trucs, c'est pas un arc majeur du scénario, mais il réapparaît à un moment qu'ils sont perdus sur une planète glacée, il me semble. Et il réapparaît donc vraiment l'affiliation.
Attends, je reviens un instant sur ce que tu disais sur Stallone, parce qu'il va y avoir la suite de Cliffhanger aussi bientôt, non?
C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'ils ont annoncé la suite de Cliffhanger.
Et je crois que Stallone a été annoncé au casting.
Ouais, il me semble. Alors, est-ce que ça va se faire?
Ah là là.
J'ai hâte de voir la nouvelle génération. Timothée Chalamet qui monte une montagne avec Stallone à côté au genre qui fait, ta prise là, elle est pas bien.
Non, je pense que c'est John Powell, non, plutôt qui.
Ah oui.
Qui comprend une armoire à glace comme lui. Bon, Tron, on en a parlé. J'ai vu aussi Wall Street, l'argent ne dort jamais. C'est clairement ça. Mmh. Parce que il y a un nouveau gamin. Encore une fois, Shia LaBeouf. En fait, Shia LaBeouf et Jeremy Renner portent la poisse dans le pré-Legacy Quell. Tu les mets dans un film. Il y a pas de Quell, en fait.
Shia LaBeouf porte la poisse tout court, hein.
Y a aussi American Pie 4 qu'ils ont fait un petit moment après. Alors ça aussi, peut-être qu'on peut le rajouter à la liste de trucs qu'on doit revoir aussi un jour.
Je pense que je l'ai vu en plus. Je me rappelle une fois À l'époque où j'étais en internat, j'avais ma copiole et je crois qu'elle nous avait fait tout regarder tout American Pie.
On appelle ça comme ça?
Nous, on appelait ça comme ça. En tout cas, la pote qui partageait ma chambre.
On dirait le nom d'un petit rongeur.
Non, mais c'est vrai qu'on a toujours dit comme ça, mais en vrai, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais voilà.
Est-ce que c'est une expression comme Déborah et tu l'as inventée après tu dis que
c'est très possible, effectivement. En tout cas, elle nous a fait faire un marathon American Pie, donc ça se trouve, je l'ai subi celui-là.
Marathon American Pie. Hein. Comment t'en es sorti sans séquelles?
Bah ouais, difficilement. En plus, j'étais en prépa, donc tu sais, toute la journée, t'as des cours de philo avec des concepts super compliqués à manier, et le soir, tu regardes American Pie.
C'est comme quand tu vas dans... T'es super chaud et tu vas dans l'eau hyper froide, il y a un choc hydrostatique.
Ah ouais, c'est ça.
En bel exemple aussi, je trouve, en tout cas, mon avis là-dessus, c'est X-Men Days of Future Past qui essaye d'en faire un arc de l'histoire, comme dans les comics. C'est à l'ancienne génération qui revient, qui croise la nouvelle, il y a des moments assez jolis. Et en plus, pour le coup, c'est pas pour essayer de les faire coexister longtemps, puisqu'à la fin, ça permet une sorte de semi-reboot de la chronologie. Donc ils ramènent d'autres personnages et ils en virent d'autres, donc ils essayent un peu de remettre les meubles en place sans dégager des suites, mais incorporer ça dans ce qu'on appelle après le multivers et qui permet un peu d'utiliser toutes ces portes-là avec un Joker. Est-ce que Mad Max Fury Road aussi en fait partie? Parce que là, on approche de 2015, hein, on est en 2015.
Je suis pas d'accord. Non, mais si t'as un Legacy Call, il y aurait... Allez, reprenons même Charlize Theron qui se barrait dans le désert et au bout du désert, en mode vieux ermite, tu aurais Mel Gibson agonisant dans une flaque d'eau qui lui dirait « De mon temps, on avait des V8, c'était vachement mieux, voilà. »
Alors peut-être que c'est le contre-exemple d'un truc comme The Flash qui lui prend juste certaines parties du Legacy Quell pour en faire une sorte de vitrine de merde et lui, Mad Max Fury Road, ne prend pas ces côtés-là et essaye juste de relancer la franchise avec une nouvelle galerie de personnages.
Sans même d'ailleurs essayer de... Je trouve que ce film, il est un peu à contre-courant de cette culture aujourd'hui. On essaye toujours de replacer les films dans une chronologie. Tu sais, il faut qu'il y ait une cohérence partout pour qu'on puisse faire des théories sur Internet de « machin va peut-être revenir en caméo de machin
et
truc ».
Et qu'on puisse faire des articles sur écran.
Exactement,
large.
Et gagner beaucoup d'argent. Et je trouve que Fury Road est un peu à contre-courant de ça, puisque Miller s'en fout. Il veut pas essayer de te justifier pourquoi c'est pas le même Mad Max, pourquoi ça ressemble pas tant que ça, mais un peu quand même à l'univers précédent. C'est juste un nouveau Mad Max qui n'est pas pareil esthétiquement, pas pareil en termes d'acteur, mais il a repris les mêmes personnages et il refait ce qu'il veut avec parce que finalement, c'est son univers, il fait ce qu'il veut après tout.
Et c'est pour ça qu'après ça, il fait un préquel sans Max.
Oui.
Ce qui est un peu amusant. Et donc là, on arrive à 2015, donc vraiment, on insiste là-dessus parce qu'en 2015, à quelques mois d'écart, on a Star Wars et Jurassic World et c'est que le début puisque franchement, quand tu survoles après, il y a des trucs comme Zoolander 2, Trainspotting 2, j'avais oublié que ça existait, même des choses comme le retour de Mary Poppins que je n'ai pas vu. Est-ce que je dois le regarder?
Je l'ai pas vu non plus.
Oui, je sais pas, je l'ai pas vu, mais je veux que tu le regardes quand même.
Et regarde American Pie 4.
Même Glass, hein, avec Split, le fait de faire revenir Bruce Willis, il y a eu un questionnement autour de ça. Je sais pas à quel point ça rentre dans les cases du Legacy Quell, mais il y a l'idée de tu fais revenir avec le même effet de surprise de à la fin de Split. T'as le fait que c'est dans la même saga et que du coup il est à l'écran et qu'en fait, non, il est pas à l'écran, il regarde la télé et t'as Bruce Willis qui se retourne et tu fais ta-da-da! Et après ils se rejoignent tous dans le Avengers du Shyamalan Verse.
Ça m'énerve parce que à l'époque où j'ai vu Split au cinéma, comme j'adore Incassable, enfin surtout à l'époque, j'étais vraiment, enfin j'ai mordu 100%, tu vois. À la fin j'étais vraiment genre, oh waouh, trop bien! Et Glass, c'est vraiment l'une des pires bouses que j'ai jamais vues, je pense, donc, enfin, ouais.
Je crois que Mathieu, il fait partie des gens qui aiment bien, non?
Moi, j'aime bien.
Pardon.
Moi, je suis plutôt Team Judy, je trouve que c'est vraiment très, très, très raté. Mais j'aime pas trop Split non plus.
Je suis vraiment seul là-dessus.
Je crois qu'Antoine, il est comme toi, non?
Oh, mais Antoine.
Il y a quelqu'un d'autre avec des goûts de dans l'équipe comme toi.
Je sais pas si tu suis sur Glass, mais il doit me suivre sur Split. Possiblement.
Il y a aussi Ocean's 8, puisque Sandra Bullock joue la sœur de Danny Ocean, de George Clooney. Donc là, quand tu vas dans les fonds de tiroir de pourquoi, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, pourquoi faire une suite, évidemment, mais.
D'ailleurs, Charlize Theron, toi qui es un expert, est-ce que la version avec Kristen Stewart que je n'ai pas vue au demeurant, est-ce que tu dirais que c'est un Legacy Call? Est-ce qu'on voit par exemple, je sais pas, Lucy Liu?
Non, il n'y en a aucune qui réapparaît. Par contre, il me semble je suis quasiment sûr qu'ils font des références. Je ne sais pas à quel point c'est censé vouloir dire des trucs, mais tu as une des tenues portées par les drôles de dames dans le premier qui apparaît dans leur espèce de salle où il y a les flingues et tout ça. Et je ne sais plus si elles ont déjà dit si ça se passait dans le même univers, mais dans mon souvenir, je ne reverrai pas ce film qui est nul, mais. Dans mon souvenir, il n'y a rien qui indique réellement ça, au-delà du clin d'œil, quoi.
Ouais. Et est-ce que ceux de McGee, du coup, sont un Legacy Quell? Alors, peut-être pas, parce que du coup, c'est une série au départ, les années 70.
Alors, il se trouve que dans le deuxième, merci beaucoup de me lancer sur ce sujet. Parce que.
Oula!
En fait, c'était Tomb Raider ou c'était Charlize Theron? Dans le deuxième, à un moment, Drew Barrymore décide de raccrocher et elle part. Elle va dans un bar et en fait, elle a une sorte d'apparition, puisque ce sont des anges, donc en fait, il y a un côté un petit peu magique et tu as. Je ne sais plus laquelle des anciennes, peut-être Jacqueline Smith.
Non, c'est toujours Farrah Fawcett.
Qui, non, parce que je crois qu'elle était morte à l'époque.
Ah, merde.
Donc, ta blague tombe à l'eau.
À l'époque, il est ressuscité pas encore.
Et en fait, elle a un échange, quelques lignes de dialogue avec, je crois, Jacqueline Smith, donc une ancienne des drôles de dames de la série. Et après, elle disparaît. En fait, c'est un moment un peu magique, mais c'est pas vraiment, tu comprends pas à quel point c'est censé être au-delà du clin d'œil. Encore une fois, c'est des trucs qui sont là pour faire plaisir aux fans, mais dans l'histoire, dans la fiction, on te dit pas, c'est la filiation.
Ouais, voilà, c'est comme Split, finalement, c'est des caméos que c'est, je trouve, hein, un peu de sens dans la narration dans le cas de Split, ou que ce soit des clins d'œil, comme tu dis, dans le cas de Charlie's Angel, ou de plein d'autres films. C'est pas comme, dans SOS Phantom, dans Jurassic World, ou dans Star Wars, où c'est des arguments marketing, largement assénés. Ouais, on est dans le caméo un peu rigolo, le petit clin d'œil, quoi.
Oui, voilà. Peut-être que d'ailleurs, en fait, le Legacy Quell est né du plaisir de faire ça, comme tu fous un crâne de Predator et d'Alien les uns côté des autres, et après on te dit, bah, en fait, on en fait des films et des comics
parce
et tout
que
ça.
À ce moment-là, Django Unchained, c'est un Legacy Quell, tu vois. Vu qu'il y a une scène avec Franco Nero, bon, bah voilà.
Bah, peut-être.
Mais en fait, après, c'est pas inintéressant d'en parler puisque finalement, ce truc, ce culte du retour des nouveaux personnages, que ça devient un argument promotionnel, etc. Est-ce que c'est pas le résultat de l'enthousiasme général du public pour le concept de caméo dans les années 2010, où les studios se sont dit, hey, on a vu à quel point les gens sont complètement fous quand il y a Andrew Garfield qui revient à deux tiers d'un film, si on n'en faisait pas carrément notre...
C'est vrai qu'il y a eu une folie du caméo
ressort,
avant...
Ouais,
avant d'avoir la folie.
Bah, d'ailleurs, j'avais fait un article là-dessus, notamment sur Black Adam, qui m'avait beaucoup fait rire, où ils se sont retrouvés à vendre comme argument marketing principal le fait qu'il y ait Superman dans leur scène post-générique. Sauf que c'est une scène post-générique, donc théoriquement c'est un énorme spoiler. Alors ils l'ont, ils le sous-entendent de manière tellement lourdingue que ils essayent de faire croire qu'ils te le disent pas, mais ils te le disent un peu quand même. C'est complètement ridicule. Et ouais, t'as cette idée de autant griller tous les caméos directs. De toute façon, regarde, Michael Keaton, c'est pareil. Finalement, il arrive relativement tard dans l'histoire, mais ça devient le truc principal. C'est en fait, c'est des caméos surgonflés, quoi.
Bah c'est ça. En fait, c'est la continuation d'un truc qui plaît aux gens. Ils ont dû se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et là, tu vois, Deadpool 3 n'est pas sorti et il y a déjà plein de trucs qui sont dits sur combien de caméos il va y avoir, parce qu'il va y en avoir plein. Donc maintenant, c'est la foire aux théories. Et Elektra, on sait qu'elle va revenir. Enfin, Jennifer Garner, ouais, elle va apparaître dedans. C'est quasiment sûr et certain. Et peut-être que Halle Berry va revenir.
Putain, mais Deadpool, c'est vraiment genre tous les acteurs qui ont joué dans des mauvais films de super-héros à la suite qui vont arriver dans l'écran, ils vont faire. Bonjour, j'ai fait un film de merde, c'était pas bien. Allez, salut.
Il y a plus de place à l'écriture de scénario là-dedans. C'est vraiment juste comment réussir à plus ou moins créer du lien entre tous ces caméos et tout. Enfin, ça prend le pas sur l'histoire complètement, quoi.
Bon, après, la vraie question, c'est est-ce que il faut blâmer Jurassic World, j'allais dire Jurassic Wars et Star Wars, ça marche aussi. Est-ce qu'il faut blâmer ces deux-là pour avoir un peu créé le boom et le pic absolu et après avoir cassé le moule ou avoir entraîné tout le monde dans sa chute, parce que à partir de là il y en a quand même beaucoup plus et bon, le terme a été inventé grâce ou à cause d'eux. Donc est-ce que la nostalgie suprême, l'effet Stranger Things et tout ça est né avec ces films, et est-ce que on peut résumer tout ce bordel à ces deux franchises? Oui ou non?
Non, je pense pas. Je pense que après si tout le monde s'est engouffré, c'est parce que ces films-là ont amassé énormément de thunes, qu'ils ont très bien marché. Après voilà, à travers tout ce qu'on a évoqué, les caméos, voilà la folie de la nostalgie enclenchée par Stranger Things, le fait que quand même le concept, peut-être pas dans sa forme finale, mais en tout cas c'est l'idée de Legacy Quell existe malgré tout depuis longtemps. Ça peut pas être les seuls responsables. Je pense que la marche était de toute manière en route. Après oui, c'est peut-être le succès qu'ils ont eu a sûrement été le déclencheur, on va dire, ultime.
Ouais, je pense pas qu'on puisse imputer à un film qui certes est un truc prépondérant, parce que Star Wars c'était le méga blockbuster des années 2010, un élément culturel global finalement, comme tu dis. On dit l'effet Stranger Things et je trouve que c'est pas inintéressant. Puisque je trouve que ce qui est assez amusant avec Stranger Things, c'est que tout le monde dit que c'est la nostalgie des années 80 qui nous fait revivre une certaine époque et tout. Alors que le coup de génie de Stranger Things et ce qu'essayent de faire les Legacy Quell à partir de Star Wars et de Jurassic World, c'est de rendre une génération qui n'a pas connu les années 80 nostalgique des années 80 à travers une version complètement fantasmée de ce que c'était. Et c'est là que ça devient assez génial, on va dire, en mode génie du mal, tu vois. C'est-à-dire que tu crées... un effet de franchise autour d'une période, finalement.
Mais pour moi, c'est le même effet que faire porter à des jeunes des t-shirts d'un groupe qu'ils n'ont jamais écouté, ou leur faire fantasmer les Walkman ou des trucs qu'ils n'ont jamais touché, en fait, qui sont juste pour eux un truc qui est dans un musée, un truc drôle, et pour des gens, bah oui, les disquettes, on sait ce que c'est parce qu'on a touché ça.
Ouais, mais ça, en même temps, tu vois, ça a toujours existé, enfin, dans le sens où ma génération à moi, enfin,
qui est aussi plus ou moins la vôtre, hein, voilà.
Moi, je sais que j'ai eu beaucoup la nostalgie des années 60, par exemple, tu vois. Parce que, effectivement, je les ai pas connus, mais ce qui t'en reste aujourd'hui, c'est les univers colorés, les designs, je sais pas, ronds et chaleureux, la bonne musique qui en reste, ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est un peu inévitable que chaque génération, finalement, se met à avoir la nostalgie d'une époque qu'elle a pas connue, qui, à chaque fois...
Les alcooliques...
Mais non mais...
Je cherchais des blagues pas trop de mauvais goût à faire sur les années 60.
Vraiment une super période.
Non mais voilà, non mais encore une fois, ce qui nous en reste aujourd'hui, forcément, c'est toujours une version fantasmée, toujours ce qui reste de mieux, on va dire, dans le... bref, donc je pense que ça, c'est un phénomène qui existe de toute manière, et c'était obligé que ça finisse par se manifester au cinéma.
Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on parle de tout ça, donc je pense qu'on va continuer la réunion la semaine prochaine, surtout qu'on n'a pas vraiment parlé en détail de ce qui va pas, notamment dans Jurassic World, et bordel, il y a des choses à dire. Mais s'il y a bien un truc, je pense, qui nous met d'accord au-delà de tous ces films de merde, c'est qu'un jour, on devrait faire ce foutu podcast. Depuis des années, on en parle, on n'a toujours pas réussi. En fait, je sais pas ce qui nous retient, à part peut-être le temps, l'argent, les ressources, la santé mentale, l'énergie vitale. En fait, je vois pas pourquoi on le fait pas. Sérieusement, déjà qu'on galère et que je vois Mathieu se liquéfier tous les matins à cause de tout ce qu'il a à faire sur le site, en vidéo, sur Facebook et tout ça. Et c'est un peu comme nous. Imagine si on avait un podcast à faire en plus.
Bah oui, bah alors du coup, la seule solution, effectivement, pour que ce modèle-là puisse perdurer, ce serait que, bah, les gens nous soutiennent. Donc, qu'ils s'abonnent, évidemment, sur les applis de podcast, qu'ils laissent des commentaires, qu'ils laissent des étoiles. Voilà, ce serait super important pour qu'on puisse continuer, effectivement, à développer ce format.
C'est vrai.